Le Maoura, par Pierre Frondet. Je n'ai guère rencontré dans mes voyages plus gracieux navire de plaisance que le Maoura, et je n'en connais pas dont la fin fut plus tragique. J'en fus témoin, voilà 10 ans. Ceux qui liront cette aventure pourront, s'ils le veulent, rendre une visite à la coque, tout là-bas, dans le Pacifique. Mais à combien de profondeur? Ce pèlerinage, je m'étais promis de le faire. Hélas, je n'en eus pas le temps, et maintenant me voilà vieux. Je me rappelle d'abord un après-midi sur le Maoura. Il y avait Storza, Nisor, Jarmin et sa femme, les propriétaires du yacht, moi, leur invité, le capitaine et l'équipage. Nous avions quitté San Francisco depuis 10 jours, et nous devions être le lendemain à Vanikoro. Je ne sais plus à propos de quoi. Il m'advint de dire que j'étais déjà né puis déjà mort bien des fois dans le cours des âges. Cette affirmation insolite fut accueillie différemment par chacun de mes compagnons. « Je suis de votre avis, Jean Fargue. Il est indiscutable que les idées de mon cerveau ne me sont pas idées nouvelles. J'ai vécu, et je ne dis pas une seule fois, mais bien plusieurs. Je me flatte d'être en accord avec un homme tel que vous. » Comme Storza achevait ces mots, Nisor eut un rire bref, un de ces rires qui m'exaspère car il ressemble au hennissement de l'ignorance. « Je dois avouer, dit-il, que je suis loin de vous comprendre et de vous suivre. Je vous accuserai volontiers, Storza, d'exposer de telles théories par pause, si M. Jean Fargue, du moins, ne m'inspirait plus de confiance. » Je l'interrompis. « Il est évident, monsieur, que vous êtes plus jeune dans l'univers, et permettez-moi de le dire, plus neuf que Storza et que moi. Nous avons grimpé plus haut que vous sur l'échelle des êtres, et vous en étiez encore à votre première incarnation, que j'avais déjà plusieurs existences révolues. Je dois dire cependant que votre forme terrestre initiale n'est point celle qui vous revêt aujourd'hui. Je vais plus loin. Vous devez actuellement commencer une évolution, changer de sphère, je veux dire de milieu humain. Il sera nécessaire que vous naissiez encore et que vous mouriez plusieurs fois, avant d'arriver aux échelons du haut desquels je vous contemple. Je voudrais bien savoir sur quoi se fonde votre opinion, Jean Fargue. Nisor ajouta. Vous jouez en ce moment aux fantaisistes et aux poètes. Encore un coup, dis-je, vous vous trompez. Je ne me contente pas de croire, d'imaginer. Je suis absolument sûr, vous m'entendez bien, que le même individu vit un nombre peut-être illimité de fois. On pourrait comparer ses existences successives à des étapes, et toujours il se rapproche davantage de la perfection qu'il ne pourra jamais atteindre, sinon pour aller s'ajouter à Dieu. Chaque fois qu'on se retourne après avoir vécu, on emporte avec soi des sentiments acquis, un nouveau bagage d'intelligence et de sensibilité. On s'affine, on se dématérialise, si j'ose dire, quoique ce mot n'exprime pas exactement ma pensée. Il serait plus juste de comparer la matière dans laquelle l'intelligence prend de plus en plus de place à des pièces d'étoffe, dans l'opacité desquelles s'infiltrerait d'heure en heure plus de lumière. À chaque période d'exercice terrestre, les besoins matériels diminuent, la faculté d'être heureux s'augmente. Je dis par exemple qu'un être rempli de passions humaines, ou celui dont la vie est quotidienne, et se borne à l'accomplissement béat et journalier des mêmes besognes infimes, est un être qui commence. À mesure que ses incarnations se succéderont, il deviendra pareil à nous, ses supérieurs ou ses aînés de plusieurs siècles. Ainsi, d'après vous, je n'aurais vécu que quelques misérables fois, tandis que vous, peut-être des centaines ou des milliers. Si cela était, je me rappellerais tout de même quelque chose. Le diable m'emporte, si j'ai le moindre souvenir des existences révolues. « Je vous contredirais sur ce point, rétorquai-je, en vous affirmant que vous en avez, mais sans vous en rendre compte, je m'explique. Ne vous arrive-t-il jamais, tout d'un coup, devant un paysage qui s'offre à vous pour la première fois de votre vie actuelle, de vous dire cependant « Je suis venu ici déjà ». Alors c'est une sorte de souffrance obscure, d'obsession. Impossible de préciser dans quelles circonstances. Et cependant, vous êtes forcé de reconnaître. On dirait que dans la mémoire, une porte s'ouvre et se referme si vite qu'on n'a pas même le temps d'arrêter sur elle sa pensée. Et tout de même, on a revu quelque chose. Il en est de même pour les mots, les mélodies, les visages. On ne peut pas ne pas s'interroger. Où donc ai-je entendu ces phrases ? J'ai rencontré un enfant de 10 ans et déjà maître musicien. Un jour, il inventa un air étrange et, disons-le, provocateur. c'était, par les sons, une peinture de l'amour charnel, avec des promesses, des alanguissements, des fureurs, des morts, des extases. Son puéril et divin compositeur avait ses beaux yeux d'innocence et, bien entendu, il ne savait rien des splendides misères de la chair. Par quel miracle l'amour physique avait-il pu trouver en lui son expression? Évoqué tout en l'ignorant, voilà, n'est-ce pas, le mystère? Or, un jour, on découvrit dans un fouillis d'archives un vieux manuscrit musical du XVIe siècle signé d'un Hongrois, et c'était le même air que celui joué par l'enfant, à deux ou trois différences minimes, qu'on pourrait n'en point parler. Pour moi, la conclusion s'impose, inutile de la formuler. Le petit garçon n'avait pas inventé les rythmes étranges, il les avait retrouvés. Soit que jadis il les eût entendus, connus par cœur, soit même que son âme en route eût fait halte quelques années dans le corps de l'ancien tzigane. Que dites-vous de cette histoire, Hélène ? À ma question directe, la jeune femme leva la tête. Jusqu'alors, la conversation ne paraissait point avoir chassé le rêve qu'elle poursuivait. Mes paroles, celles de Nisor, celles de son mari, ne lui étaient sans doute parvenues que comme un bruit confus dont ses pensées intimes ne s'effarouchaient pas. Hélène avait un visage grave, aux expressions intenses, aux traits busqués. Sa beauté dominait, mais n'attirait pas tout de suite. Pour les intuitifs, il était évident qu'elle traînait une sorte de mystérieuse fatalité derrière elle, et sans le savoir, j'avais compris qu'une fois possédée par son charme, on devait lui rester fidèle jusqu'à l'usure, jusqu'à la fin. D'autres femmes vous séduisent tôt, mais ne savent pas vous garder. Hélène, moins vite captivante, ne rendait plus la liberté. Il eût suffi pour s'en convaincre de regarder notre camarade X, avec ses traits pâlis, anxieux, ses regards trop brûlants, toujours à l'affût d'une lueur complice dans les yeux de sa maîtresse. Quant au mari, Germain, que j'aimais depuis l'enfance, c'était un géant ingénu, solide et bâti comme un phare. Un soir, dans une des basses rues de San Francisco, il avait assommé en 3 secondes un athlète chinois qui voulait le dévaliser. Je n'ai jamais rencontré visage plus souriant que le sien, avec sa grosse moustache gauloise un peu rousse et ses gros yeux de fleur de lin. Il avait une adoration pour la mer, avait dû jadis être marin, selon mes théories. Brave, il aurait certes tenu tête à 10 adversaires pour le moins. Mais doux à ses amis, il demeurait un grand air neuf et dévoué comme on ne l'est plus. Une seule chose au monde l'eût sans doute affolé, rendu capable de fureur. C'était une défaillance d'Hélène, et c'est pourquoi, moi, je tremblais. En effet, avec mon inguérissable manie d'observer toutes les choses, je n'avais pas tardé à découvrir le passionnel secret de la jeune femme et de Pierre X. Eux, cependant, se croyaient loin d'être devinés. Ils gardaient à merveille les apparences de la seule amitié. Le mari, d'ailleurs si confiant, n'avait jamais connu le plus fugitif soupçon. Mais la veille même du jour où nous devisions ainsi sur l'éternité d'un être à travers les incarnations successives, un petit incident avait affirmé mon opinion à l'improviste. Nous finissions de déjeuner, et bien qu'il fît un calme plat, la vitesse du navire, nous filions 20 nœuds, entretenait sur la dunette une fraîcheur délicieuse. Les grands oiseaux du large nous suivaient de loin, l'air de croix blanche dans le ciel bleu. La mer chantait doucement à l'arrière du navire, câline et rassurante comme une amie. Storza, assis près du couronnement, avait ouvert un livre. Il s'absorbait dans sa lecture. Hélène, tenant à la main un fragile mais aigu coupe-papier poignard, tailladait distraitement la lisse d'acajou et ses regards se perdaient au loin, bien au-delà de l'horizon, dans l'habituel infini de son cœur. Nerveux et souple, le pas de X fit frissonner l'échelle de la dunette. Sa tendre et pâle figure brune apparut, pareil un peu avec sa courte barbe en pointe, au visage d'un Henri III moins exténué, plus féministe. Au bruit clair que fit le petit poignard d'Hélène, s'échappant de ses mains, je levai la tête, juste à temps pour surprendre dans ses yeux la flamme qu'elle dirigea sur son ami. Elle s'éteignit, cette flamme, en 1 seconde. Je la retrouvai alors dans le regard de l'officier, comme absorbée par ses prunelles. Puis la jeune femme se remit à contempler la mer. Souriant, son complice, l'amant maître du navire, il en était le capitaine, s'approcha du mari pour lui montrer notre position sur la carte. Cette fois-là, je ne doutais plus, et brusquement bien des faits me revinrent à l'esprit. Entre autres choses, je me rappelais que la jeune femme, dès le commencement de notre voyage, avait insinué à Germain qu'elle aurait plaisir à se faire enseigner par le marin les grands principes des calculs nautiques. Elle eut ainsi tout le loisir de s'enfermer pendant des heures avec X, tandis que moi, complice mal renseigné, je tenais compagnie à mon camarade, et depuis je tremblais toujours qu'il ne découvrît la vérité. Nous étions déjà à la moitié de notre croisière, et rien n'était venu troubler notre calme. Je pouvais espérer qu'il en serait ainsi jusqu'à la fin, en dépit d'une sorte de prescience qui me disait « Prends garde, cet adorable et fringant bâtiment de luxe est plus menacé d'une tragédie que d'une tempête. » Et nous allions toujours. Et voilà que commençait à s'accroître l'audace des deux amants, croyant de plus en plus à leur sécurité. J'ai toujours vécu très heureux sur mer. Ces longues journées aux couleurs pareilles, aux charmes reposants et clairs, qui se déroulent sans incident, furent pour moi, à toutes les époques de mon existence si troublée, si dramatique, si fertile en événements, l'adorable trêve du corps et de l'âme. Avant de m'embarquer, quand je le faisais ainsi pour une croisière vers les mers lumineuses de l'Orient, je laissais toujours au port, comme en consigne, les préoccupations quotidiennes, les soucis de la vie continentale. Je m'en allais, le cerveau libéré de tout, l'âme en vacances, ne voulant plus réfléchir, rien connaître, sinon la joie d'apercevoir au loin le gigantesque vol des albatros ou l'escorte insidieuse et monotone des beaux marsouins au dos de saphir noir. Et les soirs, après que se sont apaisées toutes les petites rumeurs du bord, combien j'aimais vivre les premières heures d'étoiles sur le pont devenu désert. Je n'apercevais plus que l'officier de quart sur la passerelle, se mouvant de long en large, sans jamais changer de rythme, comme une intelligente machine aux aguets. Ce sont des minutes où seul en dépit des hommes qu'il porte, le navire paraît vivant à cause du frémissement satisfait et continu que lui communiquent les hélices, infatigables à leur devoir. À l'arrière, l'eau déchirée se recoud dès le passage. Au loin, des phosphorescences dansent sur les flots. On s'étonne qu'il y ait encore des astres au ciel, tant il semble que sa prodigalité les ait jetés tous sur la mer. Il m'arriva parfois, pendant de telles nuits, de réclamer d'un violon que j'emporte avec moi quelques sanglots, presque pareils à ceux des hommes. Je pense avoir un jeu plus émouvant que celui des virtuoses en renom, ayant dès l'enfance subi la tyrannie de la musique, plus aimée par moi qu'une maîtresse. Mais toujours, au bout de peu de temps, je m'arrêtais et je me prenais à écouter la nuit à travers les espaces infinis. Que de voix insoupçonnées, que de mystères, que d'harmonie. Tout cela parvient mal au sens incomplet des hommes, et j'ai pensé souvent que chacun des molécules, des atomes qui composent autour de nous le monde terrestre et tout là-bas des étoiles, doit avoir son cri, son chant, et tout aussi bien son parfum. Seulement il n'existe pas pour nos facultés trop étroites, pour nos communications murées, et nous parlons du silence sitôt que nous ne sommes plus capables d'entendre. En vérité, rien au monde ne vaut le charme des voyages, sur un bateau de plaisance, loin des villes, loin des continents, dans la seule contemplation du ciel, de l'eau, tous deux uniques et multiformes. Hélas, parmi ces prestiges de féerie, le Mahoura devait périr. Un soir, quelques heures avant la nuit, comme nous achevions de dîner, le matelot de Beaussoir signala d'abord la terre au loin et puis un feu à l'avant. Nos jumelles interrogèrent l'horizon. Nous avancions à grande vitesse et bientôt nous pûmes nous passer d'elle et distinguer à l'œil nu les formes lourdes d'un steamer. Ce qui le rendait particulier, c'était sur le pont tout un encombrement bizarre. De vastes appareils, silhouettés très nettement sur le ciel encore clair, étaient dressés là, sans que j'en pût discerner l'usage. Nous stoppâmes. Le Mahoura frissonna tout entier au changement d'action des hélices. Un tonnerre hurla dans ses flancs et l'ancre, comme un formidable engin, se mit à descendre à travers l'eau épouvantée, entraînant par l'écubier la lourde chaîne, folle d'être libre. Ce fut un vacarme monstrueux. Puis la surface de la mer redevint calme. Nous ne bougeons plus, tenus captifs par les dents de fer mordant sur les sous-sols marins. Nous nous trouvions au centre d'une baie immense et verte, dont le rivage était mangé par une végétation sombre, si épaisse qu'on n'apercevait pas le sol. Les branches les plus basses recevaient sans cesse les brutales caresses du flot. Plus loin, quelques arbres, des cocotiers, essayaient en vain de redresser leurs fûts courbés. Ils se dessinaient sur le fond bleu de l'espace comme en de grands essais de gestes. Personne. Quelques vols presque immobiles au-dessus de nous, à plusieurs brasses, l'autre bateau, dont nous pouvions lire le nom, le Shark, aussi bien que son port d'attache, Sydney. Storza s'étonna. Quel est cet étrange bâtiment? Étrange, pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il est gréé pour le sauvetage ou le remorquage? Et le capitaine s'expliqua. La côte était dangereuse. Sans doute trouverait-on au fond de l'eau un grand ossuaire de navire. Il ajouta. Voyez-vous, sur le pont du Shark, les treuils, les deux grosses pompes de l'arrière. Je suis sûr qu'on recherche là quelques bâtiments engloutis. X s'interrompit. On nous saluait de l'autre bord. Par les porte-voix, une première conversation s'établit en anglais. Il fut convenu que nous irions tout de suite sur le Shark. La nuit était maintenant prochaine. 20 minutes après, un admirable homme rouge-brique, le capitaine anglais, nous accueillit chez lui. Courtois, affable, tout à fait désireux de plaire, il ne tardait pas à nous conquérir. Il expliqua longuement l'œuvre tentée par lui dans cette baie déserte. Il s'agissait bien de ramener un navire perdu ainsi que l'avait prévu X. Nous apprîmes qu'un voilier s'était échoué là, environ un mois plus tôt. Une compagnie d'assurance, voulant essayer le sauvetage, en avait chargé l'équipage du Shark. Mais aujourd'hui le capitaine renonçait à l'entreprise qu'il nous démontra impossible, malgré sa science et son effort. Il s'apprêtait à partir dans quelques heures quand nous arrivâmes vers lui. Le lendemain soir, nous ne l'eussions plus trouvé. Il ajouta que les scaphandriers, chargés d'explorer le fond, étaient remontés fort impressionnés par la collection de vaisseaux trouvés dans les profondeurs de la baie. Entre autres épaves, une surtout les avait attirées, miraculeusement conservées. C'était, à leur dire, un petit brigantin du XVIIIe siècle, pétrifié par les coraux et comme revêtu par eux. Sans doute, bien avant lui, des bâtiments du temps jadis étaient-ils engloutis vers le même endroit. Le temps, les vagues sournoises, en avaient dispersé les débris. Celui-là s'était trouvé protégé par l'envahissement progressif des pierres qui poussent, et des navires qu'on pouvait voir encore, son squelette demeurait l'aïeul. Et même, il n'était pas sinistre. À mesure qu'il parlait, ce capitaine anglais, une émotion extraordinaire s'emparait de moi, me dominait, si forte que je devins incapable de la dissimuler. Je dus, pour répondre à l'étonnement général, invoquer quelques malaises physiques. Ce que je ressentais, je n'aurais pu le définir sur le champ. Aujourd'hui, je sais. Avec moins d'intensité, les chercheurs d'or, les découvreurs de pierres précieuses, doivent connaître une fièvre semblable quand ils vont arriver au but. L'instinct prodigieux qui les guide leur crie « C'est là, bravo, c'est là !» Ainsi pour moi, Fargue, chaque fois que la mystérieuse intuition qui est en moi est sur le point de réaliser quelque trouvaille, j'entends un choc interne, mon sang court plus vite, brutalement je suis averti. Quand le marin du Shark avait évoqué le petit brigantin mort depuis plus d'un siècle, je reconnus l'avertissement. Jusqu'au lendemain, lorsqu'enfin je sus la vérité, tout repos de corps ou d'esprit me fut méchamment interdit. J'étais hanté. Nous retournâmes à bord du Maura, accompagnés du capitaine anglais, et toute la soirée fut occupée par une conversation étrangement revenue sur nos lèvres. Il s'agissait encore de l'hypothèse admise vraie par moi et Storza, des existences successives d'un même homme à travers l'éternité. Nous discutâmes de longues minutes, et vers la fin il y eut comme une grande gêne parmi nous, quelque chose d'invisible et de présent. Hélène fit diversion, parlant brusquement de voyage. D'un commun accord, nous la suivîmes sur ce terrain, mais le trouble vague persista, et bientôt l'étranger regagna son bord. Comme il allait quitter le yacht, ayant pris congé de nous tous, je m'approchai de la petite échelle par où il descendait dans sa barque. Presque malgré moi, je lui dis « Capitaine, m'accorderez-vous une grâce ?» Ma voix l'étonna, me regardant droit aux yeux, autant que le permettait l'ombre. « Avec joie, si je le peux. Quelle ?» Vos scaphandriers descendent encore demain? Oui, pour la dernière fois. À midi, quand le soleil éclaire en plein la mer, perpendiculairement, ils fixeront avec exactitude la position du voilier coulé il y a un mois. Alors je rédigerai mon rapport. Bien, Je veux descendre aussi. Vous aurez un costume pour moi, je vous en prie.
J'ai un costume.
Mais prenez garde, monsieur. Ceci n'est plus excursion de plaisir. La profondeur est grande et vous en souffrirez. Et puis il y a des requins qui rôdent.
Qu'importe, j'insiste.
All right. Votre vie vous appartient comme les cartes aux joueurs. À vous de jouer.
Merci, à demain.
Une poignée de main, une minute qui passe, des rames qui flagellent l'eau noire. Me voici seul sur le pont. Il est minuit. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Je ne sais guère. Malgré moi, je m'accoude de bastingage. Je me perds dans un rêve. Oh, comme tout est imprécis. Mais pourtant, je me vois là-bas. Quel costume ai-je? Ce n'est plus de notre temps. Et puis, voici un brick. Je le distingue bien. Mais non, non, il n'y a que la mer, et là-bas, dans l'ombre, le shark et ses appareils dressés qui trouent le ciel vaguement bleu. Alors je n'ai rien vu? Mais si, pourtant, là, tout à l'heure, le brick. Allons, je rêve. Il faut aller dormir.
À l'aube, j'étais encore là.
Et de la nuit s'évanouissant en vapeur dernière, il me restait comme un éblouissement. C'était bien ce que je disais hier aux autres. Il semble brusquement qu'on a revu quelque chose, mais si vite qu'on ne peut fixer sa pensée. C'est comme une porte, brusquement ouverte, qui se referme. Mes amis s'étant levés, je leur appris que j'allais pour une heure être scaphandrier. Ce fut un concert de protestations. Tous les trois me peignirent de leur mieux le péril de l'aventure, mais j'étais trop décidé, et malgré moi je les regardais avec effroi pour eux, et sans comprendre pourquoi, à mesure qu'il me parlait de ma témérité, quelque chose me criait « Le danger qui vient n'est pas pour moi ». J'affirme ici qu'être intuitif est un supplice à faire frémir. À midi, j'étais prêt à descendre, avec les deux matelots anglais. Je revêtis l'habit en caoutchouc, le casque de cuivre au sommet duquel s'accrochait un long tuyau couché sur le pont du shark, comme un serpent mort. Quelques minutes, je pus parler encore par la petite fenêtre placée sur le devant du visage, et puis je dus me taire quand elle fut close. Impossible désormais d'exprimer ma pensée, sinon par geste. À ma ceinture, une lampe électrique, un pic, un fort poignard. Je contemplais fixement de jeunes hommes impassibles, à quelques mètres. Ils étaient devant une pompe. Tout à l'heure, ils m'enverraient l'air nécessaire à vivre à travers les épaisseurs de l'eau. Que l'un d'eux fût distrait, malade, et je pourrais bien cesser d'être. Mon existence était remise entre leurs grosses mains inconnues. Maintenant j'étais lourd, presque incapable de remuer, l'air d'un monstre venu de l'autre monde. On me porta jusqu'à la petite échelle qui descendait à travers l'eau. Sitôt immergé, je repris la faculté de me mouvoir. Je me sentis libre, agile, miraculeusement bien. L'appréhension qui m'avait saisi lors de l'habillage avait disparu. L'air qu'on me dispensait sifflait à mes oreilles, emplissant le casque. En quelques minutes, j'avais atteint le fond. La lumière du jour, filtrée par les flots, nous arrivait toute bleue et sur le sable, la silhouette, l'ombre du shark, se dessinait avec une netteté singulière. Autour de nous, toute une vie étrange, formidable et fantastique, s'agitait pesamment. Il y avait d'énormes crabes inquiétants qui regardaient sans avoir l'air de voir. Il remuait des pinces, des sortes de griffes lentes, comme un aveugle fait de son bâton sur la route. Toutes les formes des rêves impossibles étaient là, et puis aussi des plantes qui avaient l'aspect de bêtes, des bêtes qui ressemblaient à des plantes. Elles ne changeaient point de place, se contentant d'agiter sans cesse de longues lanières glauques, membres ou lianes, sans qu'on pût deviner à les voir si ces mouvements étaient volontaires ou seulement causés par l'eau. Je suivis mes deux camarades jusque vers un rocher, surmonté de tronceaux végétaux et droits. Tout proche, je connus que c'était là le brigantin dont m'avait parlé le capitaine. Il était vraiment pareil à un récif, tout mangé par une lèpre merveilleuse de coraux, de pierres, déposées depuis plus d'un siècle par les flots qui en contenaient la substance. J'imagine que, n'étant pas prévenu, on l'aurait pris en le voyant pour un caprice de la nature. On aurait dit: ne ressemble-t-il pas à un bateau couché, ce bloc énorme? Depuis quand est-il en formation? Mais moi je savais cette carapace, légère et mince, venue sur une véritable coque, par un miracle conservé.
Je m'avançais. Maintenant, l'émotion de la veille me reprenait et plus précise. Une idée formidable me traversa le cerveau, éblouissante comme une clarté venue d'en haut, rapide comme ces éclairs qui naissent et meurent dans une seconde. Cette idée avait l'air folle. En même temps, je la savais vraie. Je reconnaissais le yacht endormi là, le noyé du siècle passé. Voici l'étrange chose dite. Je reconnaissais le yacht. Ceci était normal, après tout, d'après ma croyance sur les survies incessantes. Un autre homme, que j'avais été, avait visité le petit navire du XVIIIe siècle, peut-être même l'avait-il habité. Une impulsion plus forte que la volonté me poussa en avant. J'arrivai au pied du brigantin, j'en fis le tour. Vers sa quille à l'arrière, il y avait un fléchissement des coraux. Sans doute, cela cachait un énorme trou, la brèche accidentelle par où la mort était entrée dans le bateau. Avec mon pic, je me mis à frapper les pierres pour atteindre dans la coque, lire le nom. Deux lettres m'apparurent, N, E, puis deux autres, R, I. Alors malgré moi, j'entendis que je murmurais « Anne-Marie ». Je continuai à frapper. Les autres lettres, presque rongées, surgirent à leur tour. Je pus lire en effet « Anne-Marie ». D'où venait que j'avais tout de suite deviné le nom? Pourquoi le timbre de ma voix avait-il changé quand je l'avais prononcé, comme si vraiment un autre être avait parlé? Mon cœur s'affola. Les deux matelots anglais m'avaient rejoint, me croyant fou à voir mon agitation. Maintenant, j'agissais comme on fait dans un rêve, sans presque savoir. Je grimpais sur la coque, à l'aide des aspérités, sans craindre le danger, terrible et sans recours, d'une plaie à mon vêtement de caoutchouc. Et je savais ce que j'allais trouver. J'avais rouvert la brèche. Entraînés par mon exemple, les deux matelots firent sauter la porte du tillac. Nous entrâmes dans l'Anne-Marie, ayant fait jouer nos lampes électriques. Mes deux compagnons s'immobilisèrent de stupeur, mais moi, rien ne pouvait plus me surprendre. Je connaissais les moindres détails de ce que je découvrirais. Cela depuis 5 minutes. J'étais comme sorti de moi-même et transporté dans un autre monde. Et ce n'était pas de l'hypnose. Dans la cabine où nous venions d'entrer, sous une table fixée au plancher, gisait un couple de squelettes, étroitement unis sans doute pendant de longues années et qui maintenant paraissaient liés pour quelques baisers macabres. L'un d'eux, vestige dernier de l'homme, avait l'omoplate gauche tout éclatée, traversée d'un fort poignard qui était resté là, gonflé par la rouille. Celui dont la chair avait revêtu ses os, nu aujourd'hui, était donc mort assassiné, au moment où il étreignait une femme dont le cadavre était près du sien. Le meurtrier était entré dans la cabine et ressorti. On ne trouvait nulle trace de lui. Peut-être, au contraire, sa dépouille gisait-elle là, dans quelque coin. Oui, je le sentais impérieusement, c'était cela. En poussant plus avant ma recherche, j'allais trouver. À présent, un nouveau voile venait de se lever pour moi. Cette fois, je revoyais nettement quelque chose qui n'était pas encore sous mes yeux, mais vers quoi j'allais. Je parlais, seul, mes mots emprisonnés dans le casque hermétique. Là, là, derrière cette cloison, un autre squelette, et puis un autre encore. Je vais les apercevoir, c'est trop sûr. Avec le pic, ayant crevé le bois pourri, je me trouvai brusquement dans les deux nouveaux cadavres prévus. Ils remuaient lentement leurs os blancs, bercés par le remous de l'eau. La claire-voie, à demi obstruée par les coraux, laissait filtrer un mince rayon de lumière verte qui pénétrait en se jouant dans l'œil vide de l'un des deux hommes. Alors je faillis tomber d'horreur. Moi qui me suis tant étudié, qui connais si bien mon visage et la forme de ma tête, je trouvais entre elle et le front de ce dernier crâne une fantastique analogie. Je me baissai, le saisis, l'emportai. Puis, sorti de l'ossuaire, je me dirigeai vers le shark. Les deux scaphandriers m'avaient devancé. En quelques minutes, nous fûmes à la surface. On s'étonna beaucoup de ma fantaisie, quand on me vit revenir avec un crâne, cueilli dans les flots comme une énorme perle tragique. Je laissai dire. Pour rien au monde, je n'aurais fait part à quelqu'un de mes idées, trop hardi sans doute pour la plupart des hommes. Le capitaine anglais me complimenta de cette première immersion et m'apprit qu'il mouillerait 48 heures encore. Il m'en donna la raison, une légère avarie aux machines. Je regagnai le Maura. D'abord Jarmin m'apparut, le visage contracté, l'air étrange. Au lieu de m'interroger sur mon excursion au fond marin, il me pria de le suivre dans sa cabine. Sa pâleur m'effraya. Un incident stupide venait de faire naître un premier soupçon en lui. Il avait aperçu Hélène près du capitaine X. Tous deux s'étaient séparés trop vite. Lui n'avait rien dit, mais à présent quelque chose le torturait. Il se désaveuglait lentement. Je ne pus m'empêcher de trembler, sachant combien elle serait redoutable, la colère de ce géant. Je protestais de toutes mes forces. Comment croire Hélène coupable? Il me pria de le laisser seul, et je sortis très inquiet. Le dîner fut muet, gêné. Chacun, de bonne heure, regagnait sa cabine. Dans la mienne, je m'étendis sans me dévêtir, après avoir posé tout droit, en face de mes yeux, à portée de la main, le crâne que j'avais trouvé dans le navire englouti. Peu à peu, mon cerveau se mit à travailler sourdement. Il faisait sombre. Je m'étais éclairé par une petite lumière. Entouré de verres bleuâtres, le macabre objet recevait le seul faisceau plus clair qui sortit de la lampe par une fente imperceptible. Plus je le regardais, ce crâne, plus j'arrivais à voir qu'il me ressemblait, ayant la même forme que ma tête, le même relief frontal que moi. Bientôt, mon imagination défrénée peupla de deux regards le trou béant et noir des yeux. J'eus l'impression que deux prunelles pareilles aux miennes me contemplaient fixement, avec insistance, du fond vide des orbites énormes, surmontées de ces deux saillies de l'os que j'ai, moi, au-dessus des sourcils. Je ne bougeais plus. La mer, très calme, le yacht immobile, aucun bruit extérieur ne menait jusqu'à moi. Les heures lentes passèrent. Je restais en tête-à-tête avec ce crâne, qui était, j'ose l'affirmer, le mien dans une autre édition. Je revoyais tout ce qui avait eu lieu depuis 24 heures. Mon émotion subite en apprenant la présence du vieux petit navire au fond de la baie. La conversation revenue comme un leitmotiv sur les réincarnations d'une âme. Ma résolution soudaine, presque imposée, de descendre avec les scaphandriers. Ma découverte, dans l'ossuaire de ce bâtiment du 18e, ma préscience de ce que j'allais voir, ce nom d'Anne-Marie que j'avais retrouvé sans le lire, tout ce que j'avais reconnu enfin, et puis ce crâne, fidèlement construit comme le mien. À mesure que je descendais plus avant dans cette récapitulation, une conclusion presque logique, mais formidable, naissait en moi. Oserais-je la dire? J'étais sûr maintenant d'avoir vécu là, dans ce petit brigantin, visité après un siècle, et même à cette époque, j'y étais mort. Ce crâne, ramassé par moi, en juin 1902, avait été le mien vers 1790. Mon chronomètre sonna 2 heures, de sa petite voix frêle. Je jugeais avoir assez prolongé mon excursion vers l'au-delà et trouvais bon de redescendre dans les réalités visibles. Un peu d'air violent de la mer me ferait un énorme bien et je sortis de la cabine. Sur le pont, je rencontrai le capitaine X. Il parcourait le pont d'un pas régulier, le front incliné, tout pensif. Brutalement, il me sembla que la destinée soufflait sur lui, comme d'ailleurs sur tout le navire. Bien que le jeune officier parût peu disposé à lier conversation, je m'approchai, tout à fait résolu à lui arracher une promesse. « Vous m'avez affirmé souvent, lui dis-je, que vous aviez confiance en Jean Fargue, que sa science en avant vous impressionnait. Eh bien, mon ami, prenez garde. Vous êtes terriblement en danger, ainsi qu'Hélène. » Il s'était arrêté, un peu crispé. Sa réponse m'arriva, prévue. « Je ne comprends pas. » « Pourquoi me parler à moi, de Madame Jarmin ?» Je baissai la tête, par approbation. « Vous me répliquez ce qu'il faut. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort, vous nierez votre amour. Vos caresses, maintenant trop hardies. Je n'insiste pas. Mais tout de même, je sais, vous m'entendez. Je sais depuis longtemps, et prenez garde. Le mari ouvre enfin les yeux. Je le connais. Cela peut devenir tragique. » X me regarda lentement, l'air accablé, comme une espèce de condamné. « La destinée, » murmura-t-il. Il me quitta et reprit sa marche régulière. Avais-je le droit d'insister? J'allais m'accouder au bastingage, le fixer sur la mer, vers l'endroit justement où aurait surgi le brigantin coulé, s'il lui avait été permis de remonter verticalement. Insensiblement, mes idées retournaient vers le chiffre mystérieux de la survie. Je continuai à croire, presque malgré moi, que j'étais déjà venu, jadis, dans cette baie, et tout d'un coup, revoyant les 3 squelettes découverts au fond des eaux, les 2 premiers entrelacés, le 3e plus loin, je murmurai 3 noms, Hélène, Storza et celui du capitaine X. Et le quatrième auquel j'avais volé son crâne, celui-là, mais c'était moi-même. L'idée fixe me dominait à nouveau. Je résolus, puisque le Shark ne partait point avant 24 heures, de redescendre à midi dans le brigantin pour voir mieux toutes les choses. L'aube vint, puis le jour. La matinée fut muette. Ni mon ami ni sa femme ne se laissèrent voir. X donna les ordres pour le proche départ. Nous devions tous déjeuner au bord anglais, invités par le capitaine. Je m'y rendis seul, portant les excuses de mes compagnons. Je ne devais plus jamais revenir sur le Maura. À midi, il y avait 2 heures que j'étais sur le Shark. Je revêtis de réchef le costume de scaphandrier. Avec 2 matelots, aimablement désignés par le capitaine pour m'accompagner, j'atteignis rapidement le fond. Nous nous dirigeâmes tout de suite vers l'épave que je désirais tant revoir. Je contemplais à nouveau les mêmes plantes, les mêmes bêtes, éclairées par la même lumière verdâtre. C'était encore une fois midi. Le soleil illuminait la mer de ses rayons perpendiculaires. Ainsi le chapelet des jours s'égrenait là sans que rien ne changeât, et les siècles passaient, sans émouvoir l'aspect des choses. À peine quelques nouvelles épaves parfois. Mais je n'avais pas le temps de me perdre dans un dédale philosophique. Je courus droit vers le ventre ouvert de l'Anne-Marie. Par la brèche que j'avais faite, et que les coraux ne parviendraient plus à boucher avant des amas d'années, je pénétrai à nouveau dans l'ossuaire, enjambant d'abord les 2 cadavres liés, dont l'un d'eux, ainsi que je l'ai dit, portait un couteau gonflé de rouille dans l'omoplate. L'eau revenait maintenant sur eux, continuait à les balancer avec douceur, comme dans une lenteur de danse. Cette seconde excursion dans le petit navire me confirmait davantage la certitude d'y avoir vécu. Maintenant, je reconnaissais tout, et même, d'instinct, poussé par une réminiscence, je cherchais à retrouver quelques objets de jadis. 10 minutes passèrent. Avec mon pic, je fouillais comme un mineur, éclairé par la lampe électrique de ma ceinture. La lumière du ciel, filtrée à travers la mer, ne parvenait pas dans l'épave. À peine quelques rayons plus hardis s'y risquaient-ils à travers la blessure de la coque. Dans la petite cabine où se conservait le dernier squelette, j'inventoriais d'un coup d'œil toutes les choses. Une sorte de pierre longue et assez mince, sur laquelle étaient agrafés des coquillages en masse compacte, se trouvait là, sur le plancher pourri, en pleine végétation marine. Je me baissai pour la prendre, comme j'avais fait du crâne, puis je sortis de l'épave. Brusquement, ma poitrine me sembla trop étroite pour mon cœur. Je souffris d'un spasme horrible, tandis qu'un pressentiment me bouleversait. Il me sembla qu'une tragédie se passait là-haut, à l'air libre, sur le Maura. Je me rappelais les soupçons de Germain, le fatalisme de l'amant, l'imprudence d'Hélène. Affolé, je fis signe aux Anglais qui m'accompagnaient et nous nous hâtâmes vers les échelles. Alors ce que je vis, béant, horrifié, farouche d'impuissance, dépassa ce que j'avais rêvé. L'eau s'était ouverte au-dessus de nous comme une gueule engloutissant une proie. Cette proie descendait maintenant vers le fond, à jamais perdue. C'était le Maura, la coque éventrée, le yacht assassiné qui se précipitait vers l'abîme pour y mourir. Et comme dans un cauchemar de folie, j'aperçus des formes humaines, tordues, se débattre contre l'étouffement et la noyade. Je reconnus mes 3 amis et les matelots. Une seconde, dans le casque vitré, je hurlai d'épouvante comme un damné. Puis, je ne sais trop comment, entraîné par mes compagnons, défendu par l'instinct de la conservation, je remontai, sans savoir comment, dans les remous, et me retrouvai sur le pont du Shark, sans presque m'en être rendu compte. Quand je fus libre, le capitaine, bouleversé parmi tout son équipage, pâle comme lui, me dit la catastrophe. 10 minutes avant, le Maura immobile et très en sûreté, après une détonation formidable, s'était abîmé soudain aux yeux des marins anglais, qui répondirent aux cris de terreur partis du yacht. En moins de 60 secondes, il avait cessé d'être visible. Maintenant, la mer était revenue et rien ne surgissait plus à l'horizon. Et le capitaine ajoutait « Ceci ressemble à l'impossible, monsieur Fargue. Les malheureux qui viennent de mourir ont été assassinés. On a fait sauter le navire, c'est sûr. En tout cas, personne n'a pu se sauver. C'est comme si les marins avaient été enfermés d'abord. » Je ne pouvais répondre, anéanti. on me conduisit dans une cabine libre du charque qui appareilla quelques heures après. Je les avais passés sur la couchette, incapables de mouvement ou de pensée, broyés par cette vision du destin. Dans la soirée, à l'aide d'un petit poignard, j'entrepris de briser la longue pierre mince que j'avais remontée. Mes prévisions se confirmaient encore. C'était une bouteille carapaçonnée par un siècle. Et dedans, je trouvais une feuille couverte d'une écriture qui, dès l'aspect, ressemblait étrangement à celle de Jarmin. Je la lus 100 fois, quoique l'ayant tout de suite retenue par cœur. Et la voici. 17 août 1791. Moi, Louis René, comte de Morques, capitaine en congé de la marine royale française, je viens d'assassiner 10 personnes par vengeance. Dans 5 minutes, elles seront mortes au fond de l'eau. J'ai sabordé le brick, ayant surpris le capitaine commandant baisant ma femme sur la bouche. À pas de loup, approché d'eux, j'ai greffé ma lame dans le dos du traître, puis j'ai tué le navire, coupable d'avoir abrité l'adultère. Je vais mourir. La mer entre dans la coque. Je déplore seulement d'entraîner un ami que j'ai là. Mais c'est un sorcier, il aurait dû prévoir. La signature prouvait une main, fort incapable, jusqu'à la mort, de tremblement. Ainsi je connus, moi seul, la mort inexplicable du Mahoura. La même tragédie s'était renouvelée. Jarmin avait sans nul doute surpris sa femme au bras de X, et sa colère avait passé comme un cyclone, emportant le yacht adorable et charmant qui dort maintenant près de l'Anne-Marie. Dans 100 ans, ils auront l'air d'être du même âge, vêtus de même coraux qui poussent, frères malheureux et jumeaux. Ainsi s'achève le Mahoura par Pierre Frondet.